Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h12 à 13h. Et c'est évidemment sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. Ravi de vous retrouver dans ce joyeux rendez-vous quotidien. J'espère que tout va bien pour vous, que vous passez une agréable journée. Nous sommes le mercredi 3 mars 2021 et c'est un ciel gris qui nous accompagne depuis ce matin dans le Beaujolais et le Val-de-Saône. Il va rester avec nous jusqu'à ce soir, mais les températures restent assez printanières, autour de 15-16 degrés attendus cet après-midi. On devrait retrouver un peu plus de ce soleil dans le ciel demain matin. Au programme de notre émission, eh bien, le petit cours hebdomadaire d'économie proposé par le prof Patrick. Ce sera vers 12h35. En fin d'émission, on parlera un petit peu cinéma, comme chaque mercredi. Mais d'abord, eh bien, on commence avec notre invité du jour. Avec nous en studio aujourd'hui, Valentin Guénichon, président de l'association Press Start, association pour l'animation et la promotion de la culture et du patrimoine vidéoludique. Alors si, adolescent, j'avais su qu'on pouvait parler de patrimoine vidéoludique, je pense que ça m'aurait bien servi quand mes parents me disaient que je jouais trop aux jeux vidéo. Mais non, maman, laisse-moi m'intéresser au patrimoine vidéoludique. C'est quand même passionnant, et effectivement, entre la première console de jeu, je crois, l'Odyssée de Magnavox, et les consoles de 9e génération, qui sont sortis en 2020 au processeur 8 cœurs, 305 GHz, 16 Go de RAM. Bon, il s'est écoulé presque 50 ans et il s'en est passé des choses. On va donc parler de jeux vidéo aujourd'hui et de rétro gaming avec notre invité Valentin Guénichon. Et ça s'annonce passionnant. Mais d'abord, on commence en musique. Il va être question de pop culture un petit peu aujourd'hui. On écoute donc Madeon avec le titre Pop Culture. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15. Merci d'être avec nous.
Oh,
Culture, c'était un titre de Madeon et je crois qu'il y a une cinquantaine, peut-être plus, de samples. Si vous les avez tous trouvés, vous êtes trop fort.
Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.
Allez, tout de suite, on retrouve notre invité en studio, Valentin Guénichon, qui vient nous présenter l'association Press Start. Bonjour.
Et bonjour, merci pour cette invitation.
Avec plaisir. Alors, Press Start, qu'est-ce que c'est, tout simplement?
C'est une idée. C'est une association que j'ai co-créée avec deux amis de rencontres fortuites, après avoir organisé avec les conscrits de Lima pour le premier festival de jeux vidéo en Beaujolais en 2018, et après une grosse présence à Lyon, au Lyon Street Food Festival, sur invitation de leurs organisateurs, pour tester un peu le concept. Et il s'avère que le rétro gaming, c'est une idée qui existe, c'est un concept qui existe depuis un certain temps maintenant, depuis surtout que les jeux commencent à vieillir, les consoles commencent à vieillir. Comme on est sur une industrie qui est née en 1972, aujourd'hui on parle de rétro gaming quand on parle de vieilles consoles, et vieux ordinateurs et vieux jeux vidéo. Et donc on a concrétisé cette association parce qu'on voulait surtout partager cette envie et cet amour qu'on a pour le jeu en général, et surtout pour le fait qu'on n'est pas obligé d'avoir la toute dernière console de la toute dernière génération pour pouvoir s'amuser sur du jeu vidéo.
Donc, promouvoir les jeux vidéo et puis plus particulièrement le patrimoine du...
Alors voilà, oui, c'est la promotion du jeu vidéo dans l'ensemble, et c'est aussi le matériel. Donc quand on parle de patrimoine vidéoludique, c'est on parle de tout ce qui est physique, matériel, effectivement, qui représente toute l'activité du jeu vidéo depuis son existence. Et à l'association, on fait aussi de la préservation, c'est-à-dire qu'on a des vieilles consoles qu'on essaie de faire fonctionner le plus possible et de partager le plus possible, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas de stocker pour stocker. Il y a beaucoup d'associations qui font ça, on leur laisse largement le champ libre pour faire ce genre de choses. Nous, on fait pas ça, on veut que ça soit utilisé, on veut que ce soit partagé.
Pouvoir
s'en servir. En fait, on nous a souvent qualifié nos interventions comme on appelait ça pas du jeu, un musée du jeu vidéo vivant et qu'on peut toucher.
Ouais. Interactif, quoi, tout simplement.
Interactif.
C'est ce que doit être le jeu vidéo, j'imagine.
C'est exactement ça. Alors, c'est problématique avec le Covid en ce moment pour que ce soit très interactif, mais on trouve des solutions quand même.
Ouais. Et histoire de rêver un petit peu, c'est quoi l'objet, le phare de la collection de Press Start, je sais pas, moi.
Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Le dernier en date, c'est la toute première console de salon au monde, la Magnavox Odyssey, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est sortie en 1972, et on a la chance d'en posséder deux. Qui sont en état de fonctionnement, mais qui nécessitent un petit peu de travail dessus pour sortir un signal correct, parce qu'en fait ce sont des consoles qui se branchaient sur la prise d'antenne de la télé, et comme là en l'occurrence ce sont des consoles américaines, le signal n'est pas tout à fait le même. Il faut modifier les consoles. Alors, on ne modifie pas les consoles, mais on rajoute des circuits pour faire en sorte que ça sorte sur les fameuses petites prises vidéo jaunes que vous pouvez avoir sur les, sur les télés, ce qu'on appelle composite. Donc ça fait partie du côté bidouille de l'association.
Ouais, du coup il faut savoir un petit peu bricoler. Et est-ce qu'il faut adapter au matériel d'aujourd'hui, parce que les écrans qu'on a aujourd'hui, c'est certainement pas les mêmes?
Oui et non. Nous, on est un petit peu des puristes dans ce domaine-là. On va essayer de conserver l'aspect d'origine le plus possible. Et surtout, on va jouer sur les équipements d'origine le plus possible. C'est-à-dire que quand une console a été prévue pour un écran, une télé cathodique, on va jouer sur une télé cathodique. Voilà. Et on essaye d'être raccord avec ce que les gens pouvaient posséder à l'époque. C'est-à-dire qu'on a vraiment, nous, on a une collection de plus de, on a 60 télés, dont une quarantaine d'écrans cathodiques.
D'accord.
Ça prend un peu de place.
Et alors, avec toute cette collection, vous dites que vous voulez faire essayer aux gens dans quel type d'événement? Vous avez parlé de festivals de jeux, vous avez parlé.
Oui. Alors nous, on est présent sur des événements récurrents comme le Festival des Jeux à Villefranche avec le Lions Club, qui est un événement caritatif à destination de l'enfance malade, et ça nous fait toujours plaisir avec les associations caladoises d'être présents sur cet événement-là. l'année dernière, quand je dis l'année dernière, oui, c'était ça, 2020, on est perdu maintenant, oui. Avec cette histoire de Covid, on est perdu dans le temps. En janvier 2020, donc c'était notre dernière intervention, le Lyons nous a laissé une salle complète de 300 mètres carrés pour présenter le jeu vidéo dans son ensemble, avec le collectif qu'on a co-créé, qui s'appelle Next Level B comme Beaujolais, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Et effectivement, on a donc des présences sur des salons. On a fait par exemple la Lyon e-sport également l'an dernier, qui était le dernier événement auquel on a participé. Et puis on intervient on essaie d'intervenir le plus régulièrement possible maintenant, de plus en plus auprès du jeune public scolaire, périscolaire, donc dans les centres de loisirs, les écoles, etc. Donc afin de sensibiliser d'abord à ce que c'est que le jeu vidéo, à ce que c'est que l'écran, à essayer de ne pas culpabiliser sur le temps d'écran et le temps de jeu vidéo parce qu'il peut être intelligent. Ouais. Tout simplement, et à faire découvrir et redécouvrir aux jeunes et aux parents, d'ailleurs, qui ont connu ces époques-là, parce que c'est très intergénérationnel, des jeux qui sont encore complètement jouables et sur lesquels on peut s'amuser.
Mmh. Et c'est vrai que quand on pense que la première console, elle est née dans les années 72, voilà. Ça veut dire que les enfants qui avaient 10 ans à cette époque-là, aujourd'hui, bon, bah, ils ont 50 ans de plus, quasiment. Et donc, pour moi, on associe les jeux vidéo aux jeunes, mais en fait, les jeux vidéo, c'est toute une génération.
Au départ, le jeu vidéo, il était familial. Quand on regarde les publicités ou les boîtes des jeux, pendant très très longtemps, c'était familial. On avait toute la famille réunie autour de la télé pour pouvoir jouer. Et d'ailleurs, au départ, le jeu vidéo était destiné à des adultes et pas forcément des enfants. Alors, pour l'Odyssée, c'était un peu tout le monde. Et puis, il y a eu un tournant dans les années 80, qui a malheureusement été impulsé par les grands fabricants de consoles, et en particulier Nintendo, qui a... entre guillemets, s'est adressé à un public beaucoup plus jeune, alors que de l'autre côté, Sega, son concurrent, s'adressait à un public un peu plus âgé à partir de 14 ans, les 14 ans et plus, et Nintendo a enfoncé le clou, et là, bon, après, on peut parler d'un sujet très, très important qui nous tient aussi à cœur, c'est la présence de la femme dans le jeu vidéo. La femme a complètement disparu du jeu vidéo au milieu des années 80, à partir du milieu des années 80, et ça s'est ressenti, et encore aujourd'hui, c'est compliqué, je trouve, de faire revenir un petit peu les femmes dans ce domaine-là. Et c'est assez pénible, d'ailleurs, et ça s'est traduit par exemple, tout le monde y pense sans le savoir, mais c'est pas anodin si la première console portable de Nintendo s'appelle Game Boy. Ouais. Elle était, les publicités, adressée aux enfants, et aux petits garçons en particulier, ce qui a complètement changé la donne du marché. Et aujourd'hui, quand vous posez la question à des parents de cette génération-là, ils vont vous dire « Mais non, mais les jeux vidéo, c'est pour les enfants. » Mais non. D'abord, les jeux vidéo, ce n'est pas que pour les enfants. Moi, j'ai 45 ans, je joue encore, et je joue avec mes enfants, et je partage des grands moments avec eux. Et on partage aussi des moments sérieux dans le jeu vidéo. C'est ça qui est important.
Je rebondis sur ce que vous avez dit sur la place des femmes dans le jeu vidéo. C'est vrai que j'avais jamais porté d'attention. La seule femme qui me vient à l'esprit, c'est Tomb Raider.
Alors, il y en a eu d'autres, oui. Il y en a eu d'autres.
Ou les princesses qu'il faut sauver dans les différents jeux Nintendo.
Ben voilà, c'est ça le problème. C'est que bien souvent, le personnage féminin, c'est le personnage qu'il faut sauver, qui est fragile, etc. Alors, c'est vrai que dans Tomb Raider, Lara Croft, c'est un personnage qui a un petit peu remonter le niveau de la présence féminine dans le jeu vidéo, et c'est important, ça date donc des années 90, et c'est sur PlayStation, pour les amoureux du truc et qui nous écoutent. Mais il y a eu d'autres personnages féminins dans le jeu vidéo précédemment. Si je remonte assez loin, il y a quand même Miss Pac-Man qui a eu son jeu vidéo, voilà, par exemple. Et puis, tu vas m'aider, Cédric, je ne sais plus le nom du personnage...
Qui était une femme dans Metroid Prime sur Nintendo.
Exactement.
On a aussi Jill Valentine qui était dans Resident Evil. A quand même pas mal, les femmes. Plutôt des femmes fortes et guerrières, hein, les Tomb Raider et Jill Valentine.
Malheureusement, c'est un peu ça. Et ça se ressent après dans toute la chaîne, si vous voulez, du jeu vidéo, de la création au jeu lui-même, au scénario lui-même. C'est très très gênant, moi je trouve, aujourd'hui, qu'on ait moins de femmes dans la chaîne de fabrication aussi. Mais ça vaut pour tout, ça vaut pour tout, ça vaut pour l'édition logicielle, ça vaut pour plein de choses.
Les développeurs, etc.
Dans la partie
de l'ombre des jeux vidéo, il y a aussi moins de femmes.
J'ai une petite pensée pour des collègues qui font des interventions sur ce sujet-là, et c'est très important aujourd'hui de redonner espoir aux femmes dans le développement informatique, et notamment dans le jeu vidéo.
analyser, enfin analyser, étudier, s'intéresser à l'histoire du jeu vidéo, à ses 50 ans d'évolution, est-ce que ça permet aussi de se voir, enfin, je vois ça comme c'est une guerre commerciale quand même à la base, le jeu vidéo, c'est des grosses boîtes qui essaient de vendre la meilleure console, est-ce que ça se ressent ça aussi
Alors pas au début, parce qu'au début c'est plutôt partagé en fait. Il y a énormément de... Alors il y a, si, on va dire, la première, il y a quand même une grosse guerre de brevets entre Magnavox et Atari au tout début. Ça a effectivement commencé un peu comme ça. Mais il faut voir que jusqu'en 83 à peu près, on a, le marché plutôt se développe énormément et il y a de la place pour tout le monde. C'est après, quand on se rend compte que les investissements sont faits un peu, de façon un peu trop forte, que commencent à s'installer des leaders, et avec l'arrivée de Nintendo qui écrase tout, notamment au Japon, et le petit Sega qui essaye de prendre sa place, c'est compliqué pour le petit Sega, mais qui va faire un carton jusqu'en 93-94, et qui va finir par disparaître, évidemment, on le sait aujourd'hui, il n'y a plus de Sega. Enfin, Sega, c'est que les jeux maintenant, c'est plus du matériel. Il y a toute cette histoire, mais il n'y a pas que eux, en fait, dans la console. Il y a aussi les micro-ordinateurs. Donc nous, on a aussi également ce genre de choses. Et en face de Nintendo et Sega, il y a aussi Atari qui se bat contre Commodore avec les Amiga. Donc l'Atari 520, l'Amiga 500. Ça, c'est des trucs qui sont géniaux à étudier parce que chacun va rivaliser d'un peu plus d'audace pour donner une machine soit encore plus puissante, soit avec plus d'accessoires, plus de jeux, etc. Ouais. Et ils ont des façons de voir les choses qui sont complètement différentes, mais Nintendo a beau écraser tout le monde, il y a eu des ratés.
Ouais.
Je donne un exemple, la PlayStation, ça devait être chez Nintendo qu'elle devait être faite. Sony avait un accord avec Nintendo pour fabriquer un lecteur CD pour la Super Nintendo. Ils sont revenus sur leur accord, et PlayStation, après quelques années de déboires juridiques, Sony sort la PlayStation et écrase tout le monde, y compris Nintendo. Donc c'est ça qui est génial dans cette industrie, c'est un rebondissement permanent. Ouais. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus calme.
Il y a des grands géants, et puis l'équilibre...
Oui, et puis ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est le jeu, en fait. C'est le jeu indépendant qui va être très très mis en avant. Ça va être on va porter notre attention sur les gens qui vont faire du stream par exemple aussi, et qui vont présenter des jeux qu'on connaît pas, ou qui vont donner une impulsion à des jeux complètement inconnus qui vont décoller d'un coup. Et ça, c'est une autre façon de voir le jeu, une autre façon de vivre le jeu, et c'est plutôt intéressant.
Et la communauté du jeu vidéo, c'est un réseau immense aujourd'hui dans le monde, et en France, les fans de jeux vidéo, c'est quelque chose de gigantesque.
C'est gigantesque. Je n'ai pas de chiffres exacts, mais ça se mesure en dizaines de milliards de dollars pour l'industrie du jeu vidéo. Il y a toute la communauté e-sport qui est très très importante depuis assez longtemps, en fait, tout simplement, qui est malheureusement pas extrêmement fédérée en France, mais en tout cas, il y a des choses qui se font. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Partout dans le monde, c'est énorme.
Et dans le Beaujolais, c'est énorme ou pas?
Dans le Beaujolais, on est quelques-uns. Donc, on parlait du collectif tout à l'heure qu'on a co-créé il y a 2 ans de ça, pour réunir un peu les bonnes volontés autour du jeu vidéo dans le Beaujolais. On a quelques associations qui sont là. On va jusqu'au Lyonnais, hein, parce que finalement, on déborde un peu. Voilà, on a des gens qui nous rejoignent. Il y a des gens qui nous quittent, des gens qui nous rejoignent, parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent, en fait. Il y a des gens qui veulent plus faire, mais c'est normal. C'est la vie. C'est comme une entreprise. Hein. Il y a des gens qui partent, des gens qui arrivent. Et on a des projets, et je pense que on finira par en parler dans quelques temps, mais on a été un petit peu coupé par la pandémie.
Ouais, justement, depuis la pandémie, par contre, pour Press Start, ça a relancé certaines choses, peut-être, ou créé certaines choses.
Alors, ça a ralenti nos événements en physique, parce que c'est compliqué d'organiser des choses avec les conditions sanitaires, les mesures sanitaires à mettre en place, même si, en fait, par exemple, pour le Festival des Jeux, on pouvait tout à fait organiser quelque chose. On se retrouve, effectivement, à créer des événements. Alors, on est en centre de loisirs, parce qu'on a des plus petits groupes, et donc ça, c'est bien. En centre social, centre de loisirs, milieu périscolaire, des conférences aussi. Hein. Les conférences, c'est plutôt bien pour nous aussi, nous faire connaître sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Et puis, ça va être des ateliers chez nous, par exemple, ou alors ça va être une présence en ligne. Donc depuis l'été dernier, septembre dernier, je crois, on est présent sur les réseaux de jeux en ligne, à savoir Twitch. Donc on a une chaîne Et on est tous les mardis soirs à 21h en ligne pour présenter un jeu rétro. Alors c'est un concept un peu particulier cette émission-là, c'est-à-dire que c'est un jeu rétro, c'est moi qui joue, et je suis très très mauvais au jeu, et je suis reconnu pour ça. Et généralement j'ai un déguisement pitoyable, qu'on appelle un low cosplay, pour faire plaisir aux cosplayers du collectif. Mais c'est l'idée qui a été impulsée par Marcus il y a des années de ça en arrière, pour ceux qui connaissent ce personnage, qui est l'auteur et qui a commis les Level 1, qui est une émission où on essaye le premier niveau d'un jeu, ouais. Et qui de temps en temps était aussi déguisé. Nous, on fait un peu dans le même genre, on s'en cache pas. Hein. Voilà, de ce genre d'influence, ça fait partie du truc. Moi, on a le même âge hein, quasiment avec Marcus, il est un petit peu plus âgé, mais voilà, on est dans le même état d'esprit. Et l'idée, c'est de partager, de s'amuser.
Ouais.
Faire profiter un peu les gens et puis de passer un bon moment. Et on fait aussi découvrir, parce qu'on aime bien, nous, chez Prestart, faire en sorte que les gens ne partent pas les mains vides, en tout cas la tête vide. C'est très très important pour nous d'apprendre des choses aux gens, de partager la connaissance. Et donc on a des émissions sur le matériel, où on va présenter une série de matériel, donc ça s'appelle Dans la boîte, c'est de temps en temps. Et puis on a aussi une émission qu'on essaie d'être le plus régulière possible, sur le déballage de ce qui arrive au stock.
Ouais.
Parce qu'on a quasiment 1500 pièces. Et ouais, c'est énorme.
C'est impressionnant. Ouais.
C'est pas beaucoup par rapport à d'autres. Il y a des collectionneurs personnels qui ont beaucoup plus de choses. Mais on a 1500 pièces qui sont opérationnelles et on peut équiper jusqu'à 300 mètres carrés d'espace. Donc voilà, c'est important de parler de tout ce qui arrive et c'est très très sympa à faire.
Est-ce que vous récupérez du matériel? Moi, si j'ai une vieille console qui traîne dans mon grenier, est-ce que
surtout, vous la jetez pas. Vous la jetez pas parce que j'ai trop entendu ça. On a jeté le matériel, c'était trop ancien, on savait pas quoi en faire. Ben nous, on récupère. Même si ça fonctionne pas, surtout même si ça fonctionne pas, parce qu'on est en mesure d'éventuellement de le réparer, quelquefois c'est pas grand chose. Donc oui, on récupère du matériel, on accepte les dons, et pour ce qui est des dons, on est en collaboration avec le Lorana à Villefranche, qui est un café ludique, et Cédric peut nous en parler
et
rapidement.
Donc oui, si vous voulez nous déposer des consoles pour l'association Prestart, vous pouvez donc venir au Lorana. Donc du mercredi au samedi, de 14h à 18h, donc au 206 rue Roland. Voilà,
et on les remercie. Vous êtes les bienvenus. Et on les remercie d'avance qu'elles puissent nous permettre de récupérer nos dons pour l'association.
Très bien. Cédric Perrin, vous êtes président du collectif Next Level B.
Oui.
Qu'est-ce que c'est en quelques mots ?
En quelques mots, le collectif Next Level B veut ou désire rassembler en fait un maximum d'acteurs dans le jeu vidéo ou dans le jeu même en général, dans le secteur du Beaujolais, dans la Calade ou même un peu à Lyon. On a des associations qui font partie du collectif qui sont de Lyon. Pour résumer, des associations ou des acteurs, comme je disais, parce qu'on a aussi un journaliste indépendant du jeu vidéo qui est en train de faire un reportage sur Sega, qui est très intéressant d'ailleurs. On a des streamers, donc quand on dit streamers, c'est des personnes comme Valentin qui fait pour Prestart, qui présente des jeux vidéo sur la plateforme Twitch. Donc on en a quelques-uns, puis après, il y a d'ailleurs tout un aspect technique derrière qui est pas mal à exploiter pour les streamers. On a donc d'autres associations, on a Hégémonie eSport qui prône l'intervention dans l'e-sport, mais de manière intelligente, de faire les choses bien, avec une bonne mentalité et un bon état d'esprit, respecter ses adversaires, tout ça, vraiment les valeurs du sport dans le e-sport, quoi. On a donc Prestart qui est avec nous dans le collectif, PewFR. Alors PewFR, c'est une association qui font du Dance Dance Revolution, enfin pas vraiment ça, mais c'est pour résumer, c'est pour un tapis de danse qui est connecté donc à un ordinateur et qui permet en fait de faire des pas de danse en fonction des flèches qui sont indiquées sur l'écran. On a des cosplayers aussi qui sont présents. Et je crois qu'on a fait le tour. Déjà, tous les acteurs.
Et donc, de quoi organiser des sacrés événements autour du jeu vidéo?
C'est ça, en fait. le dernier événement qu'on a fait, le plus gros, c'était avec Prestart à la Lyon eSport.
Oui, c'est ça.
Voilà.
On avait le festival des jeux à Villefranche aussi avant, où on était tous ensemble. Et puis, de la même manière que Prestart, le collectif se retrouve à faire aussi des événements online. Et on a fait notamment pour l'Halloween de 2020. 40 heures de live en continu, de jeux d'horreur, de jeux de survival, des trucs comme ça. Et c'était très très fun. Et on refera ça.
si on a des fans de jeux vidéo qui nous écoutent et qui veulent vous rejoindre, vous découvrir comment est-ce qu'on procède déjà pour Prestart et puis Next Level B aussi.
Alors pour Prestart, nous on est une association qui vit effectivement de ses adhérents. Donc si vous êtes dans la région et que vous avez envie de partager un moment, même si aujourd'hui ça ne se prête pas beaucoup au rendez-vous, ça reviendra de toute façon. Vous pouvez devenir adhérent de l'association, vous pouvez aller sur le site internet de l'association, press-start-retrogaming. Alors le tiret, c'est, je dis toujours, trait d'union, hein, vous saurez, c'est pas tiret du 6, tout le monde n'est pas sur Windows. c'est press-start-retrogaming.com, vous verrez, il y a tous les réseaux dessus, vous choisissez celui que vous voulez, on est un petit peu partout et on est très régulier dans notre présence. Si vous voulez adhérer, il faut nous contacter, évidemment, vous venir découvrir l'association. Et puis si vous voulez nous soutenir et que vous ne voulez pas adhérer, parce que vous êtes loin et parce que maintenant on est un petit peu globalisé grâce à Internet, vous venez sur la chaîne Twitch et puis vous prenez un abonnement. Et ça nous, le fait de vous abonner à notre chaîne, ça tombe dans les caisses de l'association et ça nous soutient. Et je trouve que c'est plutôt une bonne manière de montrer son intérêt pour le rétro gaming.
Et pour ceux qui connaissent pas, pour nos auditeurs qui connaissent pas Twitch, c'est du direct.
C'est du live,
tout à fait. Vous jouez aux jeux vidéo, on peut interagir, on peut vous envoyer des messages en direct.
Il y a un chat interactif qui permet donc de discuter avec les gens. Et puis il y a des nouvelles choses qui arrivent pour bientôt, parce qu'on va pouvoir faire un petit peu plus interaction, mais moi l'idée c'est de présenter des choses et d'échanger avec une communauté qui est intéressée par nos sujets.
Merci beaucoup Valentin Aguignon et puis Cédric Perrin d'être venu nous parler de Prestart et Next Level B. On va se quitter en musique, on va rester dans le thème des jeux vidéo, Super Mario Bros. Theme, c'est le London Symphony Orchestra qui le joue.
Magnifique.
pour les fans de Super Mario Bros. Eh bien, vous avez été servi. C'était donc joué par le London Symphony Orchestra tout de même. Allez, tout de suite, on va parler économie.
Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
Je vais vous l'expliquer en une minute au tableau noir.
Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur?
Son vrai nom, je ne le connais pas, mais par ici, on le connaît sous le nom de...
Professeur?
Ensemble sur Calade, le prof.
Alors attention, hein. Pas docteur, hein. Professeur. Mais...
Monsieur le professeur.
Allez, c'est l'heure de retrouver le prof Patrick, bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Ça va bien, en forme?
Ça va bien, ça va bien. J'ai la forme et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très français, le chômage.
Ah bon, c'est très français le chômage?
Ben ouais, c'est très français cette bonne blague. Bon écoute, avant que je t'explique, je vais d'abord préciser, je vais d'abord parler dans cette chronique aujourd'hui du chômage avant Covid, hein, d'accord? Donc du problème général du chômage. Et semaine prochaine, je parlerai du chômage, mais durant notre crise actuelle du Covid.
Très bien.
Ben oui, c'est très français parce que tu dois le savoir Mathieu, les Français on est nuls au niveau du chômage. On a des taux de chômage catastrophiques. Ouais. Alors je t'explique, le dérapage il a commencé il y a longtemps. T'étais même pas né, puis loin de là, enfin si, loin de là, faut pas exagérer. C'était au début des années 80. Pour simplifier, ça commence en 1983 avec ce qu'on a appelé à l'époque le virage de la rigueur. C'est-à-dire que le gouvernement de l'époque, qui était le gouvernement de M. Mauroy, Premier ministre de Mitterrand, avait choisi de changer son fusil d'épaule et de combattre résolument l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix, l'inflation qui était forte depuis une dizaine d'années et qu'aucun plan n'arrivait à abaisser. Alors, ce combat va être couronné de succès, hein. L'inflation, elle va baisser peu à peu tout au long des années 80. Mais il va y avoir un prix à payer. C'est que le taux de chômage va monter et va rester en moyenne au-dessus de 8% de chômage dans les décennies qui vont suivre. C'est-à-dire qu'on est dans les années 80, et ben jusqu'à aujourd'hui, le chômage n'est plus descendu en dessous de 7%. Quand on est dans les bonnes années, il est entre 7 et 8, et quand on est dans les mauvaises années, il est au-delà de 10%. Et ça, on appelle ça le chômage de masse. Bon, tu vas me dire, bon, c'est bien triste, mais nos voisins.
Oui, pourquoi
nos voisins, ils font mieux que nous, mon gars.
Mince.
C'est juste un problème français.
Ouais.
Je vais t'expliquer. Par exemple, le Royaume-Uni, la Suède, le Danemark, la Norvège, nos amis du Nord, et notre voisin allemand, en période où l'économie va bien, eh bien, leur taux de chômage, il n'est pas au-dessus de 7%, il est aux environs de 4%. Des fois, il est même sous les 4%. Alors, je vais te donner des chiffres précis pour te donner une idée. Prenons l'année 2019, juste avant le Covid. En France, notre taux de chômage était de 8,1%. En Allemagne, le taux de chômage était de 4,9%. Au Royaume-Uni, de 4,2%. En Suède, de 6,3%. Au Danemark, de 5,8%. En Belgique, de 5,5%. Et aux États-Unis, de 3,5%. Donc, Mathieu, le match est plié. Les Français, on est nuls au niveau du chômage.
Ah oui. On peut voir le contraire, on est très bon. On
est très performant au niveau du chômage. On arrive à maintenir un bon taux de chômage. Oui, on pourrait dire ça si on a un peu d'humour. Bon, allez, Mathieu, je passe à la deuxième partie. Sauf que, tu l'attendais, mon sauf que. Hein,
ouais.
L'habitude des sauf que. Ben, je vais exagérer un petit peu. Tout ça, c'est bullshit et compagnie. Voilà.
Mais pourquoi ?
Je force un peu le trait, mais je vais t'expliquer pourquoi je trouve que c'est bullshit et compagnie. Deux choses sont à prendre en compte. Un, le calcul des taux de chômage, du taux de chômage, résulte de tout un tas de règles, de conventions qui sont définies de façon un petit peu arbitraire. Ces conventions pourraient être différentes. Mais ça, c'est pas un argument suffisant parce que globalement, malgré tout, on a à peu près les mêmes règles de comptage du chômage, même si des fois, il y a certains pays qui font des petites manipulations, mais je dirais, on a tous nos manipulations. Deuxième chose à prendre en compte, on peut choisir de mettre en place des politiques sociales explicitement dans le but de faire baisser ce taux de chômage. Alors bien sûr, ça implique des choix de société qui passent dans certains pays et qui passent plus difficilement dans d'autres. Alors Mathieu, ce qu'on va faire, c'est que je vais te nommer grand cuisinier et je vais t'apprendre la recette pour présenter un taux de chômage plutôt bas.
Très bien, ah bah, je suis curieux de savoir.
On y va, t'as mis ta toque de cuisinier,
ça
c'est
y est.
Parti.
Sur mon tablier.
Premier point, plutôt que de laisser les gens au chômage, tu vas les forcer par divers moyens, on expliquera lesquels, à accepter des emplois à temps partiel court. Ce que j'appelle temps partiel court, c'est moins de 20 heures par semaine de travail.
D'accord. Emploi
précaire. L'Allemagne, la Norvège, le Royaume-Uni, le Danemark et la Suisse ont par exemple tous entre 13 et 15% de l'emploi total en temps partiel court. Le champion, c'est les Pays-Bas, ils sont à 20%. La France, elle est à 5%. Ça, c'est les chiffres entre 2010 et 2014. Alors, cette mécanique, elle est imparable en fait, parce que si on réduit le nombre total d'heures de travail effectuées chaque année par ces salariés en temps partiel court, et qu'on répartit ces heures sur plus de salariés, bah, mécaniquement, on crée plus d'emplois. Donc, mécaniquement, le chômage baisse. En fait, c'est une forme imposée de baisse du temps de travail. Sauf que là, il y a un prix à payer, c'est que généralement, il y a une augmentation du niveau de pauvreté de la population en contrepartie.
Ouais.
On s'en fout, le taux de chômage a baissé.
Oui, l'indicateur, il va bien.
Eh ben voilà, exactement. Deuxième ingrédient de ta recette, cher cuisinier, comment on fait pour les forcer à accepter ce genre de temps partiel court? Eh bien, on va mettre en place des lois plus libérales. On va prendre l'exemple des célèbres lois Hartz de 2004 de l'Allemagne. À l'époque, l'Allemagne, ça rigolait pas trop, le taux de chômage était à 11%. Eh bien, les lois Hartz en 2004 en Allemagne, elles ont facilité l'usage des CDD pour les entreprises, permis pour les petites entreprises une gestion des licenciements très, 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 très simple. Pour les chômeurs de longue durée, ils ont instauré ce qu'on a appelé des mini-jobs. C'était des jobs à temps partiel payés 400 euros par mois. Et aussi, pour les chômeurs de longue durée, des jobs payés 1 euro de l'heure. Bon, en parallèle, ils ont fliqué les chômeurs en durcissant et en diminuant les conditions d'indemnisation. Ils ont renforcé les contrôles et à la clé, ils ont obligé les chômeurs à accepter assez vite n'importe quoi comme proposition. Conséquence, en Allemagne, à partir du moment où ces lois sont promulguées, donc à partir de 2004, donc en 2005 et les années suivantes, 50% des emplois créés dans les années suivantes seront des emplois à temps partiel court. Alors, résultat des courses, en Allemagne, en 2014, 9 ans après cette loi ou 10 ans après cette loi, 22,5% des salariés allemands étaient devenus des travailleurs pauvres contre seulement 8,8% en France. Et le taux de pauvreté global en Allemagne est passé donc de 2005 à 2015, dans ces années-là, de 12,2% à 16,7%.
Ah oui.
Eh oui. Les autres pays là que j'ai cités, parce que là je parle que de l'Allemagne, parce que comme ça nous fait un exemple précis, mais les autres pays, Royaume-Uni en tête, il faut savoir qu'ils ont tous adopté ce type de mesure dans les années 90-2000. On peut citer par exemple pour le Royaume-Uni un contrat très célèbre qui est le contrat zéro heure. T'es salarié, t'as signé un contrat de travail, ça s'appelle un contrat zéro heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une semaine à l'autre, tu sais jamais combien d'heures tu vas faire. Tu peux faire un temps plein, tu peux faire un mi-temps, tu peux faire zéro heure. En tout cas, t'es pas comptabilisé comme chômeur, mon gars.
Ah non, t'as un emploi, ouais. D'accord. Super.
Exactement. Alors, pour revenir à notre voisin allemand, qui nous rend si nuls hein, quand on se compare à eux, avec leur 4% de chômage, je vais rajouter un troisième ingrédient dans la recette de cuisine qui leur permet de faire baisser le chômage. Par contre, ce troisième ingrédient, Mathieu, on n'en dispose pas en France, tu vas comprendre pourquoi. Pour comprendre ce troisième ingrédient, je te fais un petit rappel d'abord. Le taux de chômage, c'est quoi? C'est le nombre de chômeurs divisé par la population active. La population active, c'est le nombre de gens qui cherchent du boulot activement et ceux qui ont un boulot. La question qu'il faut se poser, c'est comment elle a évolué la population active en quantité depuis 30 ans en Allemagne?
Elle a diminué. Je crois qu'ils ont un problème de vieillissement, les Allemands.
Ils ont un problème de vieillissement. T'as mis le doigt là où ça fait mal. Elle n'a pas diminué pour autant parce que malgré tout, ils font encore un peu de gosses et malgré tout, il y a aussi de l'immigration. Mais elle n'a pas augmenté beaucoup par rapport à la France. Entre 91 et 2016, sur 25 ans, la population active allemande a augmenté de 6,5%. La population active française a augmenté de 14,5%.
Oui.
Cette différence, ça fait tout simplement 1 million d'emplois de plus en France qu'il fallait trouver pour nourrir cette population active. Sans parler des autres qu'il fallait trouver encore pour baisser le chômage au-delà de donner du boulot à la population active. Par exemple, sur cette période 91-2016, les deux pays, France et Allemagne, ont créé à peu près le même nombre d'emplois. Ils ont créé 2,75 millions d'emplois. La seule différence, c'est que l'Allemagne est un pays qui compte 83 millions d'habitants et la France, un pays qui compte 67 millions d'habitants. Donc l'exploit de créer 2,75 millions d'habitants est plus important du côté France que du côté Allemagne. Il y a un économiste de Xerfi Canal que j'ai déjà évoqué qui s'appelle Alexandre Mirly-Courtois qui a fait un petit calcul. Si la France avait, sur ses 25 ans, 91-2016, eu la même évolution de la population active que notre voisin allemand, eh bien le taux de chômage en France serait en 2016 de 3,8% au lieu de 10%.
Juste en changeant la population.
Juste avec la même évolution de population active que l'Allemagne, on aurait eu un chômage en 2016 de 3,8%.
D'accord.
Et si on fait l'exercice inverse, si on dit, si l'Allemagne avait eu la même augmentation de population active que la France entre 1991 et 2016, l'Allemagne aurait eu non pas 4% de chômeurs, mais 11,1% de chômeurs.
Ah oui, fait mal.
Donc voilà la recette, Mathieu. Hein. Tu veux faire baisser le chômage, tu flexibilises à mort et tu imposes à ta population des jobs à temps partiel réduit. Mmh, tu crées bien sûr massivement des bataillons de travailleurs pauvres, mais ça, on s'en fout, ça te fait un taux de chômage faible.
Ce taux de chômage faible, pourquoi est-ce que les pays préfèrent un taux de chômage faible et de la pauvreté plutôt que le contraire? Enfin...
Parce que c'est une philosophie, idéologie qui consiste à dire, bon, ben... On fait en sorte que tout le monde bosse, même si c'est des boulots d'esclaves, c'est pas grave, c'est leur problème, hein, c'est la responsabilité individuelle, vous avez qu'à être meilleur pour trouver de meilleurs boulots. Nous, notre boulot, c'est que l'économie produise assez d'emplois. Voilà. Ça, c'est la philosophie libérale qui est les États-Unis. Alors, j'en ai pas parlé beaucoup, c'est encore plus particulier les États-Unis, mais c'est la même philosophie. Hein. Ça consiste à dire, voyez bien, notre système économique peut produire des emplois. Ouais. Ces emplois de merde, bah, c'est votre problème, c'est que vous n'êtes pas assez performant. Oui. Alors en 2018, je finis avec un petit truc qui est intéressant. En 2018, il y a la revue Alternative Économique qui a fait un petit indicateur. Alors malheureusement, ils ne l'ont pas poursuivi dans la durée, c'est dommage. Ils ont créé un indicateur qui s'appelait le taux de non-emploi en équivalent temps plein. En gros, c'était un taux qui donnait non seulement un pourcentage de chômeurs, mais aussi de gens qui n'arrivaient pas à avoir un temps plein alors qu'ils le voudraient. Mmh. Eh bien, je vais te donner les chiffres de trois pays, donc la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. En 2018, la France avait ce taux de non-emploi en équivalent temps plein, un taux de 27,3%. Le Royaume-Uni, 27,6%. L'Allemagne, 28,2%. Bref, c'était kif-kif bourricot ces trois pays.
Finalement, peu importe le taux de chômage, c'est,
voilà. Ça se ressemble. Un choix de maquillage qu'on fait ou qu'on ne fait pas.
Ouais.
La réalité, c'est que depuis la fin des années 80, le système économique occidental n'arrive pas à créer suffisamment d'emplois décents pour tout le monde. Et ça, c'est vrai pour tous les pays développés.
Ouais. J'ai lu quelque part que c'était intéressant aussi dans un système capitaliste qui a un petit peu de chômage, ça permet de faire des emplois qui ne sont pas trop chers quoi, pour les employeurs.
Bah oui, un volant de chômage, c'est toujours utile pour négocier avec les salariés. Alors, non, t'es pas content, j'ai des chômeurs derrière qui peuvent prendre ta place, alors ferme-la.
Ouais,
c'est une arme de négociation.
Ça reste pratique. Bon, très bien. Merci beaucoup, prof Patrick. On se dit à la semaine prochaine. Et donc, la semaine prochaine.
Pour la suite de cet épisode, semaine prochaine. Merci, Mathieu. Salut, les auditeurs.
Le chômage pendant le Covid. À bientôt, prof Patrick. Ciao, ciao.
Ensemble, sur le calade.
Allez, il nous reste quelques minutes pour parler un poil cinéma dans cette émission.
Ensemble sur le calade.
Vive le cinéma !
Et aujourd'hui, pour les 30 ans de la mort de Serge Gainsbourg, eh ben, je vais vous parler d'un film sorti en 2010, c'est Gainsbourg, vie héroïque, le biopic consacré au chanteur, réalisé par Johan Sfar, à la base auteur de bande dessinée, à qui l'on doit notamment Petit Vampire et Le Chat du Rabbin. Vie héroïque, ben, c'est son premier film. C'est une sorte de biographie un peu fantasmagorique retraçant la vie de l'auteur, compositeur, interprète, de jeune Parisien arborant l'étoile de David pendant l'occupation et Gainsbourg, jusqu'à Gainsbourg, je veux dire, toujours accompagné par la gueule, un personnage imaginaire au long nez et aux immenses doigts griffus, représentation du côté obscur un petit peu de Gainsbourg. On croise dans les films tous ceux qui ont croisé sa route, tout celle-là aussi, Jane Birkin, Brigitte Bardot, Juliette Gréco, Bambou, Boris Vian ou Georges Brassens. Le film sera récompensé lors de la cérémonie des Césars en 2011. Il reçoit le prix du meilleur premier film, meilleur acteur pour Eric Elmosnino qui interprète Gainsbourg et le César du meilleur son. Et effectivement, le son de ce film est excellent. La musique est évidemment composée de chansons de Gainsbourg, bien sûr, et les morceaux sont réinterprété par l'acteur principal, comme dans cette scène avec Laetitia Casta.
Bah alors, je te fais peur ou je t'intimide, c'est pas...
On savait qu'on pouvait te blesser facilement.
Ouais, c'est ça qui fait peur.
Oui. Puis on n'a pas envie de te décevoir ou de te faire du mal. Puis j'arrive pas à chanter devant toi.
Moi non plus.
Thank you.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James. Comment il vécu, comment il est mort.
Ça vous a plu, hein?
Vous en demandez encore. Eh bien, écoutez l'histoire de...
Bonnie et Clyde.
Ça va pas?
Si, mais on va essayer l'inverse. Moi, je commence les phrases et toi, tu les finis, d'accord? Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom, c'est...
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang.
Barrow.
Leur nom.
Bonnie Parker et James Barrow.
Non, Clyde, pas du tout.
Oh.
Voilà, extrait du film Gainsbourg, vie héroïque. Bon, il nous reste plus qu'une minute. Je vous aurais bien fait écouter Philippe Catherine en Boris Vian dans le film qui chante Je bois aux côtés de Eric Elsmonino, mais on n'a plus le temps. Film que je vous conseille donc pour une petite soirée ciné autour de Gainsbourg. Ça peut être une bonne idée. Voilà pour la rubrique ciné de la semaine.
Ensemble sur le Calade.
Vive le cinéma!
Vive le cinéma! Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous la retrouverez en podcast sur notre site internet www.radio-calade.fr, en réécoute, rediffusion demain matin à 10h, comme d'habitude. Et puis en attendant, bah moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et puis à vous donner rendez-vous demain pour le direct à 12h12. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!
Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.